partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour cette émission Club de la Presse. Nous sommes au mardi 26 mars de l'année de grâce 2024. Il sont 11h passées de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Et merci de nous choisir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ATVI assure la mise en onde. Géraud Akoucha assure la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lesseau. Notre plaisir est d'autant plus grand quand nous savons que vous nous écoutez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Eric Huyghe Pakoudjou Johnson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, Sam, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
La semaine, vous l'avez bien débutée ?
Oui, par la grâce de Dieu.
Par la grâce de Dieu. Sam Diobo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à mon doyen Eric, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de La Nouvelle Génération.
Voilà, j'espère que tu as bien commencé la semaine.
Oui, bien entendu, la semaine a bien débuté depuis hier et puis on est de plein pied dans cette semaine.
C'est l'essentiel. Alors, nous sommes au mardi, vous savez très bien que nous débutons souvent l'émission de mardi avec la culture et là, nous nous référons souvent à Eric hein, qui nous donne souvent des sujets de culture hein, pour démarrer cette émission. Eric, vous nous proposez une interview hein, surtout parlant de la culture, c'est l'interview alors de Kodo Syriac que nous Soglo, président de Fil Bleu, qui dit que nous renforcerons la campagne de lecture. Et je pense quand même que c'est pour parler de cette initiative Luciole, la Luciole Bleue, bien sûr, qui a démarré depuis. Et concrètement, pourquoi avez-vous mis l'accent maintenant sur le promoteur même d'ailleurs de cette initiative?
Alors, vous savez que le festival Fil Bleu est déjà à sa 14e édition. Les 13 dernières éditions étaient passées avant la crise sanitaire au coronavirus. Et donc, il y a eu pratiquement 3 à 4 années d'hibernation et le festival a repris de plein pied. Et donc, ça s'est passé du 15 au 21 mars dernier. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du bilan. Et comme cela doit bien se faire, il faudrait que ceux qui ont organisé cet événement nous disent concrètement quel bilan ils tirent de leur événement. Et donc, nous avons essayé d'écouter des festivaliers la dernière manifestation qui s'était produite au Goethe Institute. Et donc, les festivaliers nous ont donné leur avis, soit disant qu'ils ont vraiment aimé ce festival-là, parce qu'il y en a qui ont tout suivi de bout en bout, avec deux délocalisations à partir de Lomé. Il y a eu Amouoblo et il y a eu Palimé. Et donc, après avoir écouté les festivaliers, il est de bon ton que nous écoutions également le président de ce festival, qui n'est autre que M. Syriac Nusoglo. Et donc, nous lui avons posé deux, trois petites questions. Et voilà, M. Nusoglo nous dit clairement qu'il est satisfait de son côté également de cette 14e édition du festival des Lucioles Bleues, Fil Bleu, comme on l'appelle. Et donc, au-delà de tout ça, la satisfaction, oui, mais nous lui avons demandé s'il n'a pas de regrets par rapport à la manière dont tout ça là s'est déroulé. Alors, vous savez, comme d'habitude, c'est le problème du nerf de la guerre. Et donc, M. Nusoglo nous a dit clairement qu'ils ont fait un budget pour l'organisation de ce festival-là. Malheureusement, malgré les appuis du BRAO, du Bureau Régional de la Francophonie, et de l'IFT, Institut Français du Togo, et du Goethe Institute, ils n'ont pas pu avoir le budget escompté pour faire de grandes choses. Néanmoins, ils y sont allés avec les moyens de bord. Alors, quant à la question de savoir si le public, selon lui, a réellement répondu à leurs attentes, M. Nusoglo nous a dit oui, qu'il était même surpris de voir qu'il y a beaucoup de monde à chaque événement, parce que vous savez, tout a commencé au centre Hakuna Matata à Dido Gomé, et il a dit déjà ce premier jour, les sièges qui étaient disposés pour les festivaliers ne suffisaient pas et ils ont été à un certain moment d'aller chercher d'autres sièges pour pouvoir contenir le public qu'il y avait. Et donc après ça, il a parlé de la séance de lecture des bouquins à Mouoblo, suivi de ce concert qu'a donné le groupe de concerts de Badamassi.
Voilà, quand c'est parti.
Le concert parti. Et donc, en ce qui concerne la séance de lecture, il a dit clairement qu'ils ont été agréablement surpris de l'écoute du public, et cela leur a donné aujourd'hui, parce que nous lui avons demandé également quelles sont leurs projections pour les prochaines éditions de Fil Bleu. Et là, il nous a dit clairement qu'ils pensent qu'ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur la lecture de bouquins, ce qui a vraiment enchanté le public qui était à Mouoblo. Sans oublier également qu'ils étaient dans un lycée avec Pozo et Vic Intelligentsia.
Justement, Vic Intelligentsia.
Donc là-bas, ils ont eu une séance de questions-réponses. Et ce sont les élèves, un collège d'élèves et d'enseignants qui posaient des questions justement aux auteurs de certains bouquins. Et là encore, ceux-là, ils ont dit qu'ils ont passé le bac. Et donc, c'était un moment très émouvant pour eux. Et donc, ils pensent qu'ils vont beaucoup plus mettre l'accent sur la lecture.
Sur la lecture. Sam Dubois, c'est vrai, quand on lit cet extrait hein, de phrase de Cyrek Nusuglu, on voit tout simplement qu'il dit « Nous renforcerons la campagne de lecture ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette campagne alors de lecture qui se fait, mais au même moment, on voit que la population peine toujours à lire.
Oui, en commençant peut-être par nous-même qui sommes ici. Combien sommes-nous à lire un bouquin entier chaque mois?
Attention, je le fais. Hein.
Oui, bon,
c'est
un cas isolé. C'est-à-dire que la lecture, oubliez les lecteurs de romans, c'est une espèce en voie de disparition. Qu'on se dise la vérité. Peut-être nos grands frères, nos parents, ils en ont fait une passion parce qu'à leur époque, il n'y avait pas d'autres objets de divertissement ou bien ils n'avaient pas d'autres issues. C'est-à-dire que c'est le livre ou c'est la lecture qui constituait pour eux un passe-temps.
Oui, mais Sam, et sur ce point, est-ce qu'aujourd'hui, avec la numérisation et tout, est-ce que le livre ne se retrouve bien, les gens ne lisent plus aujourd'hui plutôt sur les smartphones que comment on appelle, le bouquin ou le livre?
Non, justement, ce n'est pas aisé de lire un livre sur un smartphone.
Ah oui,
on peut le lire, mais ce n'est pas aisé. Parce que sur un smartphone, il y a plusieurs choses que tu peux faire en même temps. Peut-être pendant que tu es en train de lire, tu es pris d'ennui, tu peux aller sur un autre réseau social ou tu peux cliquer sur une autre plateforme et du coup, tu perds le fil de la lecture. Et donc, moi, je pense que même les journaux que nous avons, quand on vous envoie le PDF, ce n'est pas aisé de lire le PDF quand vous lisez le journal physique. Et de la même manière, un livre, le confort qu'on peut avoir à lire un livre, c'est de l'avoir physiquement, de l'avoir à son chevet et au réveil ou bien avant de se coucher, lire quelques pages avant de pouvoir s'endormir. Donc moi je pense que la lecture, il faut qu'on se dise la vérité, même nos enfants n'adorent pas trop la lecture. Il faut que ce genre de campagne continue pas à s'intensifier afin que la lecture renaisse dans les chromosomes des enfants.
Alors, ce que je voudrais dire,
oui.
Vous savez, les smartphones, parfois, les gens lisent sur leur iPad. Là, tu ne reçois pas de message. Tu es concentré à lire. Néanmoins, ce n'est jamais du tout facile. Parce que cette nouvelle addiction qu'on a pour les smartphones et tout ça ne facilite pas la lecture. Et parfois, vous savez, quand vous prenez les écrans pour lire, vous avez tendance à chercher quoi? Les images. Malheureusement, un bouquin qui est écrit, un roman ou un récit, on n'a pas besoin forcément d'y mettre des images. Et donc, ça rend très difficile la lecture sur les smartphones. Et je crois que c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Cyrek Nusuglu qui dit qu'ils vont renforcer la lecture. Il faut donner quand même le goût aux gens de lire. Parce que ce qui s'est passé à Mouoblo, c'est que les auteurs des romans, des livres, eux-mêmes étaient là et c'est eux directement qui lisaient au public. Même si il y a eu certains, on leur a demandé de lire d'autres livres qui est aussi passionnants hein, pour le public. Et donc là, vous voyez l'image que vous avez quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui a rédigé et qui est en face de vous, en train de vous lire. Ça donne vraiment envie après d'aller chercher le bouquin et de le lire.
Et ce que les gens reprochent également à ces smartphones et tout, d'habitude, on dit souvent que mais pour ce qui concerne la lecture, avec le bouquin, il y a même d'ailleurs l'odeur du livre qui est là. Et quand on vient, on sent l'odeur du livre, on a le livre entre les mains, on palpe bien le livre et donc ça permet juste de feuilleter les pages et de lire les choses comme cela se doit. Mais tandis que chez les smartphones, c'est très difficile alors de feuilleter les choses comme cela se doit. Et ça, je pense que c'est vérifié.
Non, oui, même les smartphones, parfois, vous allez voir que les écritures sont plus petites, il faut agrandir à des endroits. Ce n'est pas un exercice aisé. Et donc, moi, je pense que... Et puis, d'ailleurs, si nous tous, on se fie au smartphone. Ce n'est pas tous les livres qu'on retrouve sur smartphone. Il y a des auteurs, soit si tu veux le lire sur smartphone, il faut le payer. Parfois, tu peux le payer beaucoup plus cher que quand tu te rends en librairie pour acheter un livre physique. Moi, je pense que il faut encourager la lecture et en même temps regretter la fermeture de Librairie Star.
Ah oui.
Oui, ça dit que c'était un coin.
Il faut commencer par la Lumisco.
La Lumisco, Librairie Star, des librairies qui sont en train de se fermer. Justement parce que les gens ne s'adonnent plus à la lecture.
La lecture, justement, il y a Eric, nous étions ensemble à la dédicace alors de ce livre le samedi dernier. Je vais bien parler alors de ce livre intitulé « Député de la Nation, les leçons d'un sacerdoce de cœur ». C'est un essai de Abira Bonfaux qui vient de paraître, bien sûr. Nous étions à la dédicace la fois passée, et c'était le samedi dernier à la présidence de l'université de Lomé, bien sûr. Alors, nous dirons tout simplement que nous avons au moins encore des ouvrages à lire.
Oui, malheureusement, moi, je l'ai lu avant la dédicace. Je l'ai lu et j'en ai même fait un résumé la semaine dernière. C'était mardi.
Tout à fait, mardi.
Ici. Oui. Et donc, c'est un essai très aisé à lire. En 2h30, 3h, tu as déjà fini. Mais maintenant, quand tu veux sortir de bonnes choses, sinon des idées intéressantes de cet essai-là, là, il te faut encore plus de temps. Parce que moi, quand je le lisais, comme je devais faire le résumé, je revenais encore sur d'autres pages pour voir s'il y a une cohérence entre ce qui avait été dit et ce que j'étais en train de lire sur le coup. Le samedi, j'étais très ému par le public qu'il y avait. Un public hautement politique.
Et diversifié aussi.
Hein. Oui, alors là, j'arrive. Et hautement politique, pourquoi j'ai... Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, qui avait pris le micro pour dire que c'est vraiment dommage qu'il y a beaucoup d'autorités qui étaient là, mais dont on n'a jamais eu un bouquin. Ça veut dire que c'est des gens qui ont géré la chose publique, mais ils ne laissent pas de traces pour servir. Vous savez, on est en train de perdre nos repères. Sans l'écriture, on ne peut plus avoir de repères. Vous savez, j'ai regretté très sérieusement le décès du président Fambaré Gnatchamba, avec qui on devait commencer un truc et malheureusement il est parti ensemble avec le premier ministre Edem Kodjo. Malheureusement, tous ces gens-là sont partis. C'est vrai que Edem Kodjo lui-même, il a eu à écrire, il a eu Et demain l'Afrique, vous vous rappelez son roman phare qui a fait le tour du monde, qui a parlé de l'Afrique et tout ça. Et au-delà, parler de sa gestion des affaires publiques, on n'a pas eu ça. Et c'est ce qu'on avait voulu faire. Malheureusement, il est parti. Président Gnatchamba aussi est parti. Mais ce qu'on a remarqué dans la salle, il y avait des pontes du pouvoir qui étaient là. Et quand la question leur a été posée, tu étais là.
Tout à fait.
Mais il y a des gens qui ont promis qu'ils le feront. Mais quand? Parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été accusés de beaucoup de choses. Mais si vous n'écrivez pas, vous ne dites pas clairement ce que vous avez fait, on aura toujours cette idée-là, je ne sais pas, excusez-moi le terme, mais machiavélique sur vous. On penserait que vous n'avez jamais fait du bien, que vous avez passé votre temps à ne faire que du mal. Mais il faut laisser des traces. Parce que c'est quand vous-même vous écrivez, on prend ça quand même pour une parole d'évangile. Et ça permet de vous connaître. Ce que Dame Abira Bonfaux a fait, elle a parlé d'elle pendant cette sixième législature qui est en train de finir. Et elle avait dit qu'elle voulait sortir son essai au même moment où l'Assemblée quitterait la législature là finissait. Malheureusement, il y a eu une prolongation et ça continue. Bon, voilà.
D'accord.
Et donc, je crois que c'était très important de savoir ce qui se passe à l'Assemblée. Parce que, vu de l'extérieur, nous avons nos idées sur notre Parlement. Mais si quelqu'un du Parlement nous parle de ce Parlement, nous dit comment ils arrivent à travailler ensemble, malgré les divergences, malgré les clivages, malgré les luttes, les combats d'idées qui se font, je crois que c'est très intéressant et c'est ce qu'elle a fait, mais elle a parlé d'autre chose qui est quand même l'autre métier qu'elle fait bien. Elle a créé une fondation pour aider quand même les populations.
D'accord. Oui, Sam, c'est vrai que Amira Bonfo a partagé son expérience en tant que députée de la nation avec les gens, ou du moins avec son public, à travers cet essai qu'elle a écrit. On dirait tout simplement que alors c'est un acte salutaire. Déjà, il y a une idée peut-être alors sur ce Parlement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas assez d'informations qui sortent. Amira Bonfo vient de nous dire tout ce qu'elle a vécu avec ce Parlement.
Non, moi je pense que c'est une très bonne chose qu'un élu du peuple ait eu à l'esprit de mettre sur papier en forme de livre ce qu'elle a vécu pendant les 5 ans qu'a duré leur législature. Et donc c'est un acte assez hautement salutaire, comme je t'emprunte l'expression. Et cette dame, moi je pense que elle a essayé d'anticiper, parce que vous le dites si bien, dans l'opinion, beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée. Donc à travers ce essai, elle essaie de peindre un peu tout ce qui se passe là-bas comme travail. Ça peut même être un document qui peut édifier des étudiants qui sont en train de mener les recherches sur le fonctionnement des parlements, notamment peut-être des étudiants en droit. Mais combien sont-ils ces députés à réfléchir, à écrire des bouquins? On en a 91 avec l'ancienne législature. Si au moins la moitié, ça donnait à un exercice, on prend une thématique, chacun prend une thématique donnée du fonctionnement de l'Assemblée, je pense que nous-mêmes, nous aurons beaucoup de bouquins à lire. Maintenant, quand on finit de faire un essai, la suite, c'est quoi? Il y a eu pas mal d'essayistes ou d'écrivains en herbe qui, après un premier numéro, ils disparaissent, ils se volatilisent dans la nature. Donc moi, je voudrais lancer un appel à l'honorable Amira Bonfo.
Elle a dit, elle a promis.
Voilà.
Même dans le bouquin, elle a dit.
Donc je l'encourage. Il ne faut pas qu'elle, dorme sur ses lauriers. Parce que c'est un sacerdoce de cœur. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une fondation. Les Togolais veulent aussi voir comment ça fonctionne, une fondation. Et donc un bouquin, dans ce sens aussi, ne nous ferait pas du mal.
Elle a promis faire d'autres essais dans d'autres domaines. Okay. Puisque là, elle a dit clairement qu'elle n'est plus candidate à la prochaine législature. Et donc, ça va lui permettre d'embrasser d'autres domaines et elle va faire d'autres bouquins là-dessus. C'est très intéressant qu'elle nous parle un peu de sa fondation et d'autres choses.
D'accord. Et nous sommes rejoints par Isidore Kolo. Isidore, bonjour.
Bonjour à tout le monde. Bonjour Pascal et bonjour confrère ici présent.
Nous sommes en train de discuter.
Il faut lui demander d'abord s'il a pu dormir.
Oui.
Je pense que nous y reviendrons.
À coup sûr,
nous y reviendrons.
Alors, nous sommes en train de discuter
L'Assemblée nous a fait une colle.
D'accord, on va en parler tout de suite. Alors, nous sommes en train de discuter alors de cette dédicace du livre que vous connaissez très bien, puisque vous avez participé même d'ailleurs aussi à cette dédicace, à la cérémonie de dédicace le samedi dernier. Et nous avons écouté même Amira Bonfo la fois passée sur son ouvrage. Et elle disait même d'ailleurs que si l'expérience lui était donné encore de refait, sûrement qu'elle reprendrait alors cette expérience, parce qu'il y a des faits marquants, dans cette expérience faite au niveau de l'Assemblée nationale.
Grâce à Eric, j'ai pu parcourir le livre, et moi je parlerais plutôt d'un témoignage de son parcours à l'Assemblée, et Elle a parlé de son expérience à l'Assemblée. Elle n'a pas parlé du fonctionnement de l'Assemblée. Quand vous parcourez ça, ce sont des témoignages vivants. Et c'est une très bonne chose, je lui tire le chapeau, parce que c'est une première. Et j'ai eu même à lui poser la question, parce que nous qui sommes de l'extérieur, nous pensons que être à l'Assemblée, ce n'est pas vous, personne ne m'en démentira. La raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde se bouscule au portillon d'aller à l'Assemblée, pour nous, c'est un pain béni. C'est un pain béni et c'est cerise sur le gâteau. Et qu'elle parle de sacerdoce, on sent que le sacerdoce, ce sont des sacrifices. J'ai eu à lui poser la question, pourquoi elle a intitulé sacerdoce de cœur? Est-ce que son parcours n'a été que chemin de la croix? Voilà l'interrogation que je me pose en lisant le titre de l'ouvrage. Elle a eu à s'expliquer et comment les députés sont sollicités pour venir en aide aux populations. Donc pratiquement, c'est moi dit, Jossou aussi avait fait le témoignage, que être à l'Assemblée, c'est comme si vous devenez le ministre des Affaires sociales et pour s'occuper des cas sociaux.
Vous êtes parce que vous serez tellement sollicité.
Oui, ils sont sollicités. C'est d'après ce qu'ils ont dit. Au point que même leurs émoluments ne suffisent pas pour honorer les sollicitations ou venir en aide aux populations, surtout de votre village. Et c'est pourquoi elle parle de sacerdoce. Bon, je peux la comprendre. Donc, en filigrane, je dis que bon, et que fait notre ministère des Affaires sociales? Au point que aujourd'hui, les députés qui devaient être à l'Assemblée pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement soient devenus l'agence
sociale
dans leur milieu. Bon, c'est une réflexion à haute voix, hein, pour que on puisse y réfléchir.
Mais là, Isidore, ce n'est pas que les députés, ou ce ne sont pas que des députés, j'allais dire, mais il y a même des directeurs d'institutions, et il suffit simplement qu'on vous nomme quelque part, et c'est tout comme, c'est un ouf de soulagement pour tout le village.
Même les gens ont eu à fêter et à célébrer leur nomination dans ce pays. Les gens ont débarqué du village avec tap-tap et toutes ces choses-là pour célébrer la nomination de leur fils au gouvernement. Et nous-mêmes, nous sommes sollicités dans nos quartiers et dans une moindre mesure, les gens vous sollicitent. Donc, il y a un sérieux problème.
Oui, mais est-ce que ça justement,
et,
la question
et que les députés en viennent à peindre ça et témoignage à l'appui,
à le dire
ouvertement. Il faudrait que nous nous ressaisissions, que nous puissions voir les cas sociaux, parce que nous le disions, mais on nous méprenait, on croyait qu'on peignait la République en noir, la misère coule les rues.
Oui, Sam, ce que Isidore évoque, je pense quand même que c'est un sujet sérieux. Et avec ce sujet, est-ce que ça ne veut pas dire que... comment ça s'explique d'abord? Est-ce que ce n'est pas la précarité qui est à la base de cela? Déjà, quand on vous nomme quelque part, automatiquement, c'est tout le village pardon qui est derrière vous. Des gens vont frapper votre porte chaque jour, rien que pour avoir de la pitance.
Oui, moi, je pense que c'est une situation réelle que Isidore est en train de décrire, parce que nous tous qui sommes ici venons d'une localité donnée. On n'est pas de Lomé, on n'est pas de grande ville. Et quand nous rentrons chez nous, au village, il n'y a pas que les autorités, il n'y a pas que les députés que les gens sollicitent. Nous-mêmes qui sommes ici, quand vous arrivez dans la famille, il y a au moins des gens qui vont vous solliciter. Et donc, cette précarité ambiante-là existe, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos du gouvernement? Moi, je pense que c'est oui et non. Parce que la solution pour résoudre un temps soit peu ce genre de situation, c'est véritablement l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, parce que vous allez voir, vous arrivez, quelqu'un vous voit, il dit, bon, quand vous êtes journaliste, vous êtes à Lomé, mon fils vient d'avoir un BTS, est-ce que vous pouvez l'aider à trouver un boulot? Comme si, oui.
Abira aussi, elle a dit.
Il y en a de ces cas. Or, si on ne peut pas trouver un boulot, on peut au moins orienter cet enfant-là vers des structures qui promeuvent l'entrepreneuriat ou qui allouent des fonds pour un démarrage d'activités génératrices de revenus. Et donc, moi, je pense qu'il faudra que l'État mette plus l'accent sur l'entrepreneuriat, encourager les jeunes à se diriger vers l'entrepreneuriat. Et comme ça, les gens peuvent s'auto-employer. Quand vous avez l'auto-emploi dans une famille, et c'est le domaine qui donne beaucoup plus l'argent que l'administration publique. Il faut qu'on se dise la vérité. On connaît des jeunes...
L'administration protège.
Protège, mais...
Par rapport à la retraite
et la tout retraite ça. Et tout. Mais ouais. quand on développe bien son entreprise, on peut s'assurer une bonne retraite. Voilà, une bonne retraite. Donc, il faut orienter les gens.
Il y a Isidore qui rit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Lui-même, il a une entreprise de presse. Je le sais. Comment ça prospère?
Oui, c'est pourquoi je demande à l'État de nous encourager. De nous encourager.
Ça sert à mieux.
Eric, combien sont ces entreprises qui arrivent à survivre?
Oui, mais il faut mettre un programme pour encadrer.
Est-ce qu'il n'y a pas de programme,
mais c'est le cadre qui ne sait pas.
Il faut appuyer sérieusement.
C'est le cadre qui ne sait pas. Et écoutez, vous vous souvenez que le président de la République avait dit qu'il faut prioriser les jeunes entrepreneurs et les femmes.
En leur donnant des marchés.
Et le résultat, il était tellement déçu. Aujourd'hui, il ne peut plus dire ça. Donc voilà. Quand on donne un jeune,
pourquoi le président il est déçu? Parce que quand on donne les marchés aux jeunes, il n'arrive pas à l'exécuter dans l'ordre de là.
Est-ce qu'il n'arrive pas à l'exécuter? Non, il se cherche. D'abord, ils vont acheter un 4x4, ils vont louer une maison. Alors, oubliant que c'est le fonds, le commerce.
Pour aller, c'est l'argent, avec l'argent qu'il faut faire le travail.
Le travail.
Alors, je vais.
Eric, le cadre, il faut créer un cadre propice.
Je vais
rebondir sur ce que Isidore est en train de dire. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous engagez un jeune pour travailler avec vous. Lui, il arrive le premier jour, le lendemain, il commence par regarder tout ce que vous avez comme bien. Lui, il veut commencer déjà par conduire une moto et 2 mois après, il veut avoir une voiture. Sans savoir que vous, peut-être vous êtes passé par un vélo, vous avez longtemps marché sous le soleil, vous avez pris Zemiga, etc. pour arriver là où vous en êtes. Aujourd'hui, c'est un problème crucial. À tous les niveaux, tout le monde vous dit les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ça veut dire que c'est un problème social qu'il faut régler en amont. Quand Isidore parlait du cadre qu'il faut mettre en place pour que les jeunes puissent y adhérer, je crois que c'est très important. On dit soutien à la jeunesse, à l'emploi des jeunes, etc.
FNFI,
les fonds qu'on alloue, comment ces fonds-là sont gérés? D'abord, un jeune qui n'a pas fait, une formation ni un stage ou quelque chose pour gérer une entreprise, vous lui remettez n'importe quel fonds, il y aura échec. Donc, c'est un cadre qu'il faut créer déjà. Aujourd'hui, vous savez, on le dit depuis longtemps, qu'il n'existe plus d'État-providence. Mais c'est l'auto-emploi. Mais comment alors créer ces emplois-là pour qu'ils puissent prospérer? C'est là, ce n'est pas notre problème. C'est le problème du gouvernement. Et c'est là où je rejoins mes collègues.
D'accord. Alors, cher confrère, nous allons parler d'un autre sujet. On parle de cette fois-ci de la corruption. C'est vrai que déjà la semaine dernière, la APLUSIA était dans le Septentrion pour former les journalistes sur la lutte contre la corruption. Et Isidore, oui, d'abord, on se souvient que déjà l'année passée, la formation a été faite pour les journalistes à l'heure du Sud, bien sûr. Mais cette année, c'est plutôt les journalistes à l'heure du Nord qui sont bien sûr au Nord du pays. Et aujourd'hui, avec les formations et tout, est-ce que vous pensez tout simplement que ce travail de lutte contre la corruption est en train de prendre?
Je ne le pense pas. je vais vous décevoir. Rapucier avait fait des enquêtes, a déposé les conclusions. Mais le ministère public ne s'est jamais saisi de ces dossiers. C'est ça le problème. Partout où je vais, ce n'est pas pour décourager l'ancien président ni le nouveau. Je vais toujours leur dire que Rapucia a vu l'impression où, que nous avons de Rapucia, c'est comme un serpent sans venin ou un lion édenté. Ça ne fait pas peur. Il faut revoir le décret de nomination, de création plutôt, de la Rapucia, pour que Rapucia puisse avoir des prérogatives coercitives pour faire appliquer ces enquêtes, les conclusions de ces enquêtes. Mais si Rapucia n'est là que pour faire des constats comme nous les journalistes, alors là, j'ai rencontré d'éminentes personnalités, hein, des ambassadeurs, qui disent, mais qu'est-ce que Rapucia apporte? Quel est l'impact de la Rapucia dans la lutte contre la corruption? On ne le sent pas, malgré leur volonté d'aller de l'avant. Mais leurs conclusions sont restées dans les tiroirs du procureur de la République. Il faut donner la manette à Rapucia de pouvoir sévir. Sans cela,
d'accord. Alors, oui, Eric.
Mon avis. Hein,
oui,
mon
votre avis.
Je pense que c'est dangereux de donner ces pouvoirs-là à cette institution.
Mais pourquoi?
Parce que les enquêtes menées par la Rapucia ne sont pas des enquêtes aussi potables que cela. Pourquoi je dis ça? Il peut arriver que la Rapucia fasse des erreurs. Pourquoi alors on demande à la Rapucia de remettre ces enquêtes au procureur de la République? C'est pour qu'il y ait derrière une enquête judiciaire.
Ça n'a jamais été fait.
Mais est-ce que l'enquête judiciaire se fait?
Je suis d'accord avec toi, Isidore. Ce qui se passe là, c'est que vous savez, ces institutions-là sont dirigées par des hommes. Et ce qu'on craint le plus souvent par rapport à ces institutions-là, c'est les règlements de compte entre personnalités. Quelqu'un qui, effectivement, a fait une malversation ou est taxé de...
soit de détournement.
De corruption.
Ou de corruption.
Mais est-ce qu'il peut y avoir de corrupteurs sans corrompus? De l'autre côté, on peut s'attaquer à une personnalité sans faire le tour de tous ceux qui sont impliqués dans cette forme de corruption. Et donc, si le dossier est remis au procureur de la République, c'est pour qu'il y ait derrière une enquête judiciaire. Malheureusement, il y a de cela 4 ans, nous avons découvert avec la Rapucia et le Saint-If qui ont déposé plus d'une dizaine de dossiers au ministère public, c'est-à-dire au bureau du procureur de la République.
De la République.
Mais rien n'a bougé. Aucun dossier n'a été touché.
Et c'est quoi le souci?
Alors, c'est là où nous tous nous posons la question. Si Isidore demande qu'on revoie le décret d'application de la loi qui installe la Rapucia, je suis tout à fait d'accord.
La preuve en est que au Bénin, comment vous l'appelez?
La criette.
La criette, oui.
Non. La criette, mais elle arrive à avoir des résultats.
Non, c'est pas la même configuration.
Oui, la criette, c'est comme le script.
C'est comme le script ici.
Ouais. Ici. Mmh. Voilà.
Il y a des gendarmes, il y a des officiers de police et tout
ça. Mais alors, il faut créer une structure qui puisse
à faire diligence des enquêtes menées par.
Le SCRIC aussi a des résultats.
Ouais. Non, je n'en conviens pas.
Oui, Sam, c'est vrai.
Parlons de la lutte contre le résultat, la corruption.
Oui, bien sûr, président. Il ne faut pas oublier, quand on parle de corruption et
les infractions assimilées.
Mmh. Oui, mais Sam, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus besoin, au niveau de la population, hein, on n'a pas plus besoin des résultats tangibles au niveau de Aplicia?
Ce n'est même pas au niveau de la population. Le pays même a besoin de ça. Parce que la lutte contre la corruption, c'est vrai que le gouvernement en a fait son cheval de bataille. C'est pour ça même que vous allez voir que la A+I a été redynamisée avec de nouveaux membres. Mais le problème, le souci majeur, c'est ce que mes confrères sont en train de dire. C'est au niveau de la justice que ça coince. Pourquoi ça doit coincer là-bas? Parce que déjà, la A+I, ce n'est pas une succursale de la justice. La A+I, ils n'ont pas qualité à traquer les gens et à les juger. Tous ceux dont on parle au niveau de la A+I, ils sont présumés innocents jusqu'au jour où la justice ou un autre corps judiciaire établit les faits qu'on leur reproche. Donc aujourd'hui, moi je pense que la A+I fait déjà son travail. Le travail sur le terrain est là. Mais si on donne les moyens de coercition à la A+I, comme Isidore est en train de le dire, on avait assisté à une autre commission anticorruption de Ratio Bofolivi. Et c'était une commission qui faisait un peu dans les règlements de compte. Ouais. Elle s'est donné plus de pouvoir, plus que ce que la A+I a aujourd'hui. Et les résultats, finalement, le président Yadema était obligé un jour, sans sortir un décret, mais la commission même s'est éteinte d'elle-même parce que le président avait eu une hémiplégie.
Non, parce que les gros bonnets.
C'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous faites le travail, il faut tout remettre à la justice. Il n'y a pas de gros bonnets dans cette histoire parce que l'argent que les gens détournent, cet argent-là, on peut l'utiliser pour développer le pays.
D'accord. Alors, rapidement, Eric.
La corruption coûte plus que notre budget national. Chaque année, le coût de la corruption est plus élevé que notre budget de 2 200 milliards.
Nous
sommes maintenant à 2 000 milliards.
On
est à 2 000 milliards.
Et donc,
avec les collectifs budgétaires aussi, est-ce qu'on atteint les 2 000?
Oui,
si on arrivait à éteindre un peu la corruption, on aurait un budget qui serait double par rapport à ce que nous avons.
Tout à fait. Chers confrères, nous allons observer un impératif au niveau de la technique et nous revenons juste après.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous abordons le plat de résistance de cette émission de ce jour. Et plat de résistance, vous le savez très bien, ce sujet qui fait l'actualité depuis un temps. Et je veux bien parler alors de cette révision constitutionnelle hier à l'Assemblée nationale aux environs déjà de minuit, c'est-à-dire plus précisément à 23h44. Les députés ont voté déjà à cette constitution ou cette nouvelle constitution, ce qui fait que le Togo rentre ainsi dans la 5e République, bien sûr. Et donc, des journaux sont revenus sur le sujet aujourd'hui, bien sûr. Il y a Actu Express, Isidore, vous êtes revenu sur le sujet, vous écrivez « L'Assemblée nationale impose le régime parlementaire au Togolais ». Eric, vous êtes aussi revenu sur le sujet et vous parlez alors de la modification constitutionnelle et vous écrivez « Modification constitutionnelle, le Togo bascule dans la 5e République. Les 159 articles sont condensés en 100 passages au régime parlementaire ». Alors, sur le sujet, je veux vous proposer déjà un extrait du discours de la présidence de l'Assemblée nationale, prononcé bien sûr hier à l'Assemblée nationale lors de cette nouvelle constitution. On l'écoute, on revient.
La proposition de révision constitutionnelle que la représentation nationale vient d'adopter est bâtie sur des points majeurs. Il s'agit d'une série d'innovations visant à définir une nouvelle identité républicaine permettant au pouvoir public constitutionnelle de représenter efficacement la nation togolaise. Le premier point majeur et sans doute le point fondamental demeure la mise en place d'un régime parlementaire caractérisé par une collaboration constante entre l'exécutif et le législatif et dont le principe de responsabilité politique du gouvernement demeure la clé de voûte. La deuxième figure marquante de cette proposition, se référant aux pratiques du régime parlementaire, est la création du poste de président du Conseil, chef suprême des armées, disposant de l'administration et exerçant l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité. Il détermine et conduit la politique de la nation ainsi que la politique étrangère et représente l'État dans la conduite des relations internationales. Un autre point saillant est la consécration de la déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux du citoyen faisant partie intégrante de la Constitution. Le texte propose aussi, sans épuiser la série d'innovations contenues dans la proposition de loi portant révision de la Constitution de la République togolaise aujourd'hui adoptée, une refonte de la justice ordinaire sous l'autorité d'une cour de cassation ainsi qu'une modernisation plus poussée des autorités administratives indépendante. À l'issue de cette adoption, je voudrais adresser mes vives et sincères félicitations au groupe des députés signataires de la proposition de révision de la Constitution.
Vous venez là d'écouter Madame Yawa Digbandi Tchegan, la présidente de l'Assemblée nationale, hein, qui se prononçait après le vote lors de cette nouvelle Constitution hier. Alors, Isidore, en 2022, on a eu le même scénario, 2007, même scénario, 2024. Est-ce qu'on dira tout simplement que l'histoire se répète?
Il a encore fermé le...
Allez-y, allez-y.
Je dirais que l'histoire se répète et c'est nuitamment qu'on a modifié la Constitution comme ce fut le cas en 2020, en 2002.
En 2002, justement.
Et quand vous opérez nuitamment, ça veut dire que vous cachez certaines choses. Pourquoi ne pas le faire dans la journée? C'est ma première interrogation. Nous parlons de révision constitutionnelle. Non, on a une nouvelle constitution. Si vous lisez entre les lignes, on a une nouvelle constitution.
Effectivement, il a dit que nous rentrons dans la 5e République comme cela.
Oui, voilà. Est-ce que nos mandants ont cette prérogative?
Vous voulez parler des députés actuels?
Oui, ce sont nos mandants. Nous sommes les mandataires. Nous avons le pays en partage. Est-ce qu'ils ont, quand vous lisez l'article 59 en vigueur, est-ce qu'ils ont cette prérogative de pouvoir changer de régime politique? Au passage, j'ai dit que ce n'est pas la première fois que le Togo essaie le régime parlementaire. En 58, Sylvanus Olympio n'a pas été élu au suffrage universel. C'est l'Assemblée qui l'a désigné. Et il a exercé le pouvoir. Et c'est ça même qui a créé des rivalités entre lui et Anani Santos. Puisque finalement, il a changé le régime parlementaire en régime semi-présidentiel que nous avons adopté. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Sur le fond, je me dis que ce n'est pas normal ce qui s'est passé hier. Je peux me tromper, mais c'est mon analyse de la chose. Nos mandants ne peuvent pas décider d'un régime qui plus est va changer carrément la Constitution. Tous les professeurs de droit, les constitutionnels vont vous dire que ce n'est pas une révision constitutionnelle, mais c'est une nouvelle constitution qu'on nous impose aujourd'hui. Mais sociologiquement parlant, est-ce que le régime parlementaire est partagé par les Africains? Je ne le pense pas. Demandez aux ethnologues, ils vous diront que le chef commande. C'est ça que nous avons en partage. Chez nous, on dit que la tête ne reste pas là et on va, et le jeune va porter le chapeau. Et Tananani, Odona Kukuna et Kolo. C'est comme ça que nous fonctionnons en Afrique. Le président ne serait là que pour amuser la galerie, pour ne pas dire amuser la galerie, mais et honorer les chrysanthèmes. Et c'est le, comment dirais-je, le premier ministre dont on change
seulement. Le président du conseil.
Mais c'est le premier ministre, c'est
oui,
ça.
Mais une autre appellation. Une
appellation comme on, les Italiens le font. C'est tout.
D'accord.
Mais aujourd'hui, donc le Togolais, on ne veut pas, on ne va plus. Les répercussions que ça aura, vous avez vu, tout ce qui est présidence, toutes ces choses-là vont changer et ça va dénaturer complètement la constitution de 1992 que nous avons plébiscité à plus de 92-99%.
D'accord. Ok. Et Eric.
Et c'est là où ça crée un sérieux problème.
D'accord. Ok. Et Eric, c'est vrai que désormais l'exécutif est composé alors du président de la République hein, qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il n'est plus élu par le peuple, mais par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Et il ne gouverne pas.
Et sans débat.
Et sans débat, justement.
Il faut l'ajouter, sans débat.
Justement. Fondamentalement, Eric, qu'est-ce qui va changer?
Ce qui va changer,
oui,
c'est qu'il y aura alternance. Mais c'est ça. Aujourd'hui, avec la configuration qu'on a, un régime semi-présidentiel, mais tout le monde sait que nous sommes dans un régime présidentiel en réalité, puisque le chef de l'État a pratiquement tout le pouvoir.
Tout le pouvoir.
Mais avec ce régime parlementaire, le président de la République n'aura plus tout ce pouvoir-là. Et c'est le président du Conseil qui aura tout le pouvoir. Mais là, ça va changer quoi? Est-ce que le président actuel, parce que le tort qu'on leur donnait, c'était de chercher à garder le pouvoir à l'heure actuelle, avec le régime parlementaire, qui va garder quoi, où et comment? Est-ce que Faure Gnassingbé sera le président qui n'aura plus de pouvoir, ou bien il sera le président du Conseil? Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe. Et, comme je le disais tantôt, c'est une alternance qui ne dit pas son nom. Et je me dis même que dans l'application de cette nouvelle constitution, parce qu'il faut voir, hier, on a trop fouillé hein, jusqu'à 5 heures pour avoir ce test-là. Qu'est-ce qu'on a enlevé de l'ancienne constitution? Il y avait au total 17 titres.
Tout à fait.
Aujourd'hui, c'est 6 titres. Il y avait 159 articles. Aujourd'hui, c'est 100 articles.
C'est une nouvelle constitution?
Oui. C'est une nouvelle constitution. C'est pour ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on dit qu'on est. On a basculé dans la 5e
République.
Puisque l'ancienne constitution, c'était la
4e République, bien sûr.
92,
oui.
Même s'il y avait
eu des modifications. Et donc, je dis, si on a enlevé des articles, si on a fondu d'autres, si on a. Mais dans tous les cas, on dit que c'est pour permettre une lisibilité de la constitution. Ça veut dire qu'on l'a rendue un peu plus fluide. Alors, dans l'application de cette nouvelle constitution, elle rentrera en vigueur dès que le chef de l'État va le promulguer. La deuxième chose qui va changer, c'est qu'une fois promulguée, une fois l'élection régionale et législative couplée du 20 avril prochain finie, ça veut dire que la nouvelle constitution entre en vigueur parce qu'on va élire après la promulgation, bien sûr.
Après la promulgation, oui, oui, oui. La publication et la publication dans le journal officiel.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ce qui va se passer, dans tous les cas, c'est qu'il y a un an, qui se retire du mandat du président de la République. Il ne va plus faire les 5 ans, parce que logiquement, on s'attend à aller à une élection présidentielle en 2025.
Donc, et là, cette élection n'aura plus lieu.
Cette élection n'aura plus lieu. Et la conséquence, c'est que le président ne finit pas son mandat.
D'accord. Et Sam, oui,
c'est aussi
Sam
une conséquence.
Oui, justement. Merci beaucoup. Sam,
mais
justement, rapidement, puisque le temps aussi évolue rapidement.
Il y a aussi la création, de, par exemple, de la Cour de cassation et tout ça. Oui. Tout ça, là, c'est des choses qui vont changer.
D'accord. C'est vrai que nous basculons ainsi du régime présidentiel ou semi-présidentiel à un autre régime qui est le régime parlementaire. Et finalement, est-ce que aujourd'hui, c'est ce que les Togolais ont besoin?
Non, moi, je pense qu'il y a une constance. Les Togolais ont donné mandat à des députés. Isidore parlait de mandant. Alors, ça veut dire que le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est l'Assemblée qui le détient. Parce que les députés sont une émanation du peuple.
Et le président de la République.
Non, ça.
Le et lui au suffrage universel, hein.
Oui, ça veut dire que. Isidore,
on laisse ça terminer.
On t'a écouté religieusement, on est talonné.
Justement,
par le temps. Laisse que chacun fasse ses démonstrations.
Oui, ça m'allez-y.
Avec le régime parlementaire, qu'est-ce qui va se passer? Les députés, ils sont élus au suffrage direct. Ça veut dire que c'est nous qui désignons directement. Les députés. Mais les députés à qui nous avons donné mandat vont élire le président de la République et le président du Conseil. Il faut préciser au passage que le président de la République, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale qui constituent le Parlement qui vont désigner le président de la République. Mais le président du Conseil, il sera élu par l'Assemblée nationale. C'est ça la différence. Maintenant, ce qui est pathétique et historique dans cette mutation qui est en train d'être opérée au niveau de l'Assemblée, c'est un président qui est arrivé au pouvoir et qui a retrouvé un mandat illimité en 2005. Et en 2019, il décide de limiter son mandat. Il faut se faire violence pour accepter de bénéficier d'un boulevard devant soi et de dire, bon, pour nous conformer à tout ce qui se passe un peu autour de nous, nous limitons le mandat. Donc, en 2019, la Constitution a été modifiée pour limiter le mandat du président. Aujourd'hui, d'un régime semi-présidentiel qui donnait tous les pouvoirs au président de la République, nous basculons dans un régime parlementaire où le président de la République n'a plus ces pouvoirs-là qu'il avait avant. Donc, ça fait deux choses historiques qui sont en train de se passer au Togo. Un président qui accepte de limiter le mandat et au même moment, qui accepte de se départir d'un certain nombre de ses pouvoirs pour le remettre entre les mains de l'Assemblée, parce que justement, c'est au niveau de l'Assemblée que devrait se jouer tout. Maintenant, la Constitution, la nouvelle Constitution dont il est question, il n'y a pas que le fauteuil présidentiel. Eric a parlé de alternance. Oui, parce que le président de la République est élu pour un mandat de 6 ans. Mais le président du Conseil, qui est issu de la majorité parlementaire dont il est le chef, il est élu et effectivement aussi pour un mandat de 6 ans, mais là-bas, il n'y a pas de précision. On a dit renouvelable. Ça veut dire qu'il peut être renouvelé plusieurs fois. Et au même moment, ça veut dire que le jour où le parti majoritaire, aujourd'hui, perd sa majorité et que la majorité va dans le camp d'un autre groupement de partis politiques, ça veut dire que vous perdez le président du Conseil constitutionnel.
D'accord.
Donc, au niveau de la nouvelle constitution, il faut le préciser, il y a la Cour de cassation. Parce qu'on a constaté qu'au niveau de la justice, il y a beaucoup de dossiers qui montent au niveau de la Cour suprême et qui s'entassent. Et au final, il y a la Cour de cassation qui peut être beaucoup plus active et qui peut être comme un bras opérationnel pour liquider rapidement les dossiers. D'accord. Au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, aujourd'hui, il faut que les autres finissent.
Oui, rapidement.
Au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, c'est vrai que par le passé, la HAC ne prenait pas en compte la régulation des réseaux sociaux.
Tout à fait.
Mais aujourd'hui, c'est possible avec la nouvelle Constitution et les plateformes numériques où les gens prennent le vilain plaisir de vilipender d'autres honnêtes citoyens. À partir de maintenant, ça veut dire que la haute autorité peut agir au niveau de ces plateformes.
D'accord.
Donc, moi, je pense que c'est une innovation, beaucoup d'innovation. Les gens verront parce qu'ils se disent que, bon, OK, souvent, c'est tel parti qui a la majorité. Ça oblige tous les autres partis à se mettre ensemble ou à travailler davantage
pour avoir
la majorité.
Merci beaucoup.
Quand je suis ce genre de discours, ça m'intrigue.
Pourquoi?
Ça m'intrigue en ce sens qu'on laisse les principes de droit
la loi est générale et impersonnelle. Mmh. Or, aujourd'hui, je suis désolé de constater que la loi est faite pour une seule personne.
Comment ça?
Et le président de la République ne fera plus ci, le président ne sera plus ça. Mais écoutez, où sont les principes de droit? La loi est générale et impersonnelle. Ici, on a personnifié la loi. C'est le plus général. Que le président ne serait plus ceci, ce que là. Tantôt, il disait qu'en 2005, Faure Gnassingbé est venu trouver une constitution.
Mais ce n'était pas limité. Mais, le mandat était limité.
Tu oublies qu'en 2002, il était le président des lois. Il a participé à ce toilettage. C'est lui qui avait préparé ça.
Il n'était pas le président de l'Assemblée
nationale. Il était le président des lois.
Il n'était pas le président de l'Assemblée
nationale. Il était président des lois. Oui. Il y a contribué.
Il n'était pas le président de
la. Il était président de
la. Le président de la commission des lois seul peut faire quoi dans la modification.
Mais c'est lui qui donne.
Lui peut faire quoi?
Non,
rien du tout.
C'est lui qui imprime.
Non, rien du tout.
La
condition. Dans le cas d'espèce, il y a eu un
certain à tenir. Oui. Il n'est pas aussi innocent que tu veux nous faire croire.
D'accord. Merci beaucoup. Oui. S'il vous plaît. Justement, s'il vous plaît. Je pense que ça devient passionnant, ce débat. Mais nous allons en arrêter là. Surtout que notre temps est déjà avancé. Nos auditeurs nous ont écoutés. Nous allons leur donner aussi la parole de s'exprimer sur ces sujets débattus ici au Club de la Presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous contacter. Un premier auditeur que nous insérons déjà. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Allô? Décidément, il n'y a pas de retour, hein. Allô?
Allô?
Oui, comment vous allez?
Allô.
Ah, mais décidément, il n'a pas de retour. Et, rapidement, on insère un autre auditeur. Allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, Canal FM. Je salue tous les invités.
D'accord, les invités aussi vous saluent. S'il vous plaît, le nom
c'est Karim le taximan.
Karim le taximan. Karim, allez-y.
Vous voyez comment le Togo, ça devient de pur mal. Ils ont fait tout ça là. C'est juste pour nous faire du mal. Et personne ne dit rien. On peut crier, on peut tout dire. On n'a personne pour venir à notre secours. C'est comme ça le pays est devenu. C'est Dieu seul, le Tout-Puissant seul, qui peut nous sauver dans ce pays. Que Dieu bénisse aussi les gens qui font du mal avec les Togolais. Merci.
Merci beaucoup, Karim. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez? C'est Pelé?
Oui, c'est Pelé.
Oui, Pelé, allez-y.
Je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Je pense que on dit donc que la loi pour former le gang de Mbekuna il y a vers minuit le RPP est parti encore pour faire son job. Je pense que le pays a payé. Nous allons le payer. Et tout ça là, il montre que est en train de nous dire qu'il est vomi par le peuple. Il ne peut pas se présenter devant le peuple violet pour dire encore qu'il y a une élection. Ça, c'est clair et net. Le 28 février 2020, il avait sonné à tout le monde, à tout le peuple violet, de fait pour que Faure Gnassingbé cède le pouvoir paisiblement. Maintenant, il a préféré aller mollo-mollo et aller à une Athéna. Parce que je pense qu'on l'a compris. Nous sommes devant nous le 20 avril 2024, trois élections. Les élections législatives, régionales et présidentielles en même temps. Donc je pense que le groupe Togolais doit se lever debout. Tous les Togolais savent qu'il est temps d'espérer que les RPP de Faure Gnassingbé ne peuvent rien faire. Parce que c'est le ministre qui aux élections de 2020 en campagne, il a dit sur RFI que le président Faure a hérité le Togo dans un état délabré. C'est-à-dire que et Adema a laissé à décrire le pays avant qu'il a recueilli, ce qu'il a hérité. Et il a mis le Togo dans un état malheureux.
D'accord, Pelé.
Oui. Ah, je crois que vous voulez vous dire.
Non. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne.
Non, c'est pour dire que nous sommes dans un état malheureux. Est-ce que les Togolais veulent rester dans un état malheureux avec le régime RPG?
D'accord. Ok, merci beaucoup. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
Le nom c'est?
Comment la Togolais? C'est Bozambo.
Ah, Bozambo, allez-y.
Rire ou pleurer. Là où moi je suis maintenant, je suis fatigué et découragé contre mon peuple. Si on va aller à la 5e République, il me semble que c'est le référendum qui doit amener là-bas. Donc les députés, à leur mandat, ils n'ont pas pensé de ça. Au moment que leur mandat est fini, ils viennent de nous proposer la loi qui les Togolais ne voient pas leur cœur dedans. Et tout le monde est en train de dormir dans ce pays, dit que le Dieu va faire. Si Dieu va faire, si tu ne mets pas dans ton genou, Dieu ne peut jamais soulever ce que tu mets dans ta tête. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais un beau jour viendra, le peuple togolais va sourire.
D'accord.
Que les députés font hier, c'est une bonne chose. Si quelqu'un dit c'est du mal, oh c'est du bon, on doit l'applaudir. Ils n'ont qu'à continuer de faire. Donc je crois que il reste que 2 mois pour eux, non? Donc on l'attend à l'Assemblée encore. Si les peuples ont des soutiens, d'aller voter encore à eux, de venir, donc il n'y aura pas élection présidentielle au Togo. C'est ça qui me fait pitié qu'ils ne pensent pas à nous les populations. Nous disons que nous sommes enfermés dans ce pays. Il n'y a pas de route. Vous pouvez me montrer dans un quartier, on dit que Lomé. Vous pouvez me montrer un quartier de Lomé. Si tu rentres dans ce quartier-là, tu vas voir que c'est Lomé, c'est chic. Il n'y a pas.
D'accord. Merci beaucoup, Bozambo. Merci beaucoup, Bozambo, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. 22-21-33-114. Allô?
Oui, Alain de Cordoba.
Oui, Alain, allez-y.
C'est vraiment triste. Hein. C'est triste. Que ça dit à l'Assemblée, ça dit une minorité de 9 personnes met le pays là dans cette situation.
Allô?
Horrible quoi.
Allô Alain?
C'est vraiment horrible, oui.
Oui. Quand vous dites que c'est une minorité, puisque c'est toute la majorité qui a voté la loi hier, hein, quand on prend pratiquement 89
non,
personnes.
La proposition est faite par un cinquième des députés, non?
Oui, 19.
Oui.
19?
Oui.
Oui, c'est ce que la Constitution dit.
Ils ont pensé faire ça à ce moment-là. Ils ont fait 5 ans. C'est à la fin de leur mandat qu'ils pensent que modifier la Constitution, rentrer dans 5e République.
D'accord, ok. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Alain. 22-21-33-114-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir hein, dans l'émission Club de la Presse de ce mardi. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien, c'est Godwin à l'appareil.
Godwin, allez-y.
Vous voyez, ce qui arrive quand on amène les députés danseurs, les députés qui font des selfies à l'Assemblée, c'est le résultat qu'on a. Il faut appeler le peuple à voter massivement contre ce régime. Parce que trop, c'est trop.
D'accord, ok. D'accord, merci beaucoup, Godwin. 22-21-33-114-91-36-63-75. Toujours de courtoisie et d'élégance dans nos propos. C'est très important. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute.
Allô?
Allô, je vous écoute.
Allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour. Thomas, on le laisse et on place une autre personne. 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment vous allez?
Je m'appelle Dima Kofi.
Dima Kofi.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle d'Assivito.
Assivito, allez-y, Dima.
Merci. Vous voyez comment l'élection sénégalaise a été passée. S'il y a la transparence au niveau des élections au Togo, il n'y a pas de problème pour le cinquième régime. Ce que l'Assemblée a fait, moi, je ne dis pas grand-chose. Mais il faut des élections libres et transparentes. Quand on élit un président ou bien les députés à l'Assemblée, il faut que tout le monde soit satisfait des votes faits. Là, il n'y aura pas de problème. Mais avec ces 4 milliers de trucs, les députés nommés ou bien les députés non nommés font les trucs à leur fin de mandat. Vraiment, c'est regrettable pour le peuple togolais. Je vous remercie.
D'accord, merci beaucoup, Dima. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Oui, bonjour, comment vous allez? Allô? Allô? Décidément, nous n'avons pas notre ami en ligne. 22 21 33 114. Allô?
Allô,
bonjour.
Allô?
Oui, disiez.
Bonjour.
Disiez, diminuez le volume de votre pouce qui est à côté de vous.
Ouais, comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Bonjour, Eric. Bonjour, Sam Diabo.
Oui.
Le 13e aussi.
Oui,
Didier, comment tu vas?
Sam Diabo.
Oui, Didier.
Allô? Allô? Oui, Didier, allez-y.
Je dis ce que Sam Diabo dit là, même si on dit ça à un sourd mineur là qui est à côté de vous, là, ses oreilles vont sourire. Le président Faure est arrivé là, trouver un boulevard. Le boulevard à laquelle la partie a créé, parce qu'il était le président de la commission des lois. Donc, c'est lui qui fait partie des gens qui ont modifié cette constitution en 2002. Il est venu, après, il a eu 5 ans et il ne veut pas. Il est venu d'État. Il est venu par un coup d'État même. Après, il vient, il dit que non, ils vont faire 2 mandats, 3 mandats, c'est bon. Et il lui reste 1 mandat et puis il sacrifie 1 mandat et il le prend dans les 6 ans. Donc, c'est comme nous sommes bêtes, nous ne raisonnons pas. Il a 1 mandat qui sacrifie 9 mois, bien 1 an en 2005 maintenant, il prend 6 ans. Et après, il va prendre 6 ans encore, et après, il va nous dire que non, il faut retourner à la constitution, bien il va revenir il faut refaire une nouvelle constitution, il va se représenter. C'est ça que je me dis, rire ou pleurer, comme l'a dit mon frère Bozambo. Vraiment, lui-même, en tant qu'intellectuel, monsieur Sam Diabo, en tant qu'intellectuel, journaliste, là, ou pour trouver normal qu'on passe d'une république à une autre république, ça passe par référendum, en tant qu'intellectuel, ça ne vous dit rien. Je vous remercie.
Ah oui, disais merci. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Ça va aussi, votre nom?
C'est Eric.
Eric. Eric de Togocom. Allez-y, Eric.
Oui. On dit souvent que lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Quand le mur décide quelque chose au Togo, nul ne l'empêche. Ça me cœur et ça me désole que les choses aillent ainsi dans mon cher pays. De la vie chère à la famille, c'est vous. Le plat que les parlementaires pensent à nous servir, c'est le changement de la constitution. Nos dirigeants ne font qu'abourer leurs comptes, préparer l'avenir de leurs enfants et construire de grandes maisons à leurs petites familles. Notons que tout se fait ici-bas. Celles qui nous l'ont servi, ils le récolteront.
D'accord, merci à vous aussi, Eric. Nous allons recevoir un dernier auditeur. Dernier auditeur, 22 21 33 114. 22 21 33 114. 91 36 63 75. Dernier auditeur, alors pour le compte de cette émission, nous l'attendons. 22 21 33 114. 22 21 33 114. 91 36 63 75. Un dernier auditeur pour le compte de cette émission que nous attendons, bien sûr. Et donc, je pense quand même que le dernier auditeur ne se signale pas. On va rapidement faire un tour de table et clôturer le débat de ce matin. Nous revenons en plateau et Isidore, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. Je veux bien parler alors de nos auditeurs et auditrices, bien sûr, qui se sont prononcés alors sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Et beaucoup sont intéressés par cette question de révision constitutionnelle. Quelle est votre réaction?
Non, je m'en tiens aux déclarations des uns et des autres.
ça pourra suffire à ce que le peuple togolais, ou ceux, du moins ceux qui ont appelé, ne se retrouvent pas dans ce qui s'est passé hier nuit. Ce hold-up qui a été fait, ce coup d'État qui a été fait. Donc, les Togolais ne s'y retrouvent pas. Et c'est pourquoi, la fois dernière, j'avais intitulé cette révision que ça ne serait pas, ne serait-il, ce ne serait-elle pas une menace pour la paix, la fragile paix sociale que nous vivons au Togo. Non, ça, c'est, nous sommes tous désolés. Bon, qu'advienne pourra, on attend de voir.
D'accord, on attend de voir. D'accord, on attend de voir. Eric ?
Oui, bon, mais on a écouté les auditeurs. Et chacun a donné son opinion par rapport à ce qu'il ressent aujourd'hui suite à cette modification constitutionnelle. Alors, ce que moi j'ai voulu surtout entendre, c'est les conséquences de cette modification-là sur le quotidien des Togolais. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Togolais cherche ? C'est vrai qu'il y a, on l'avait déjà dit dans cette émission, qu'il y a une précarité, qu'il y a une précarité ambiante dans le pays. Tout le monde le reconnaît. Maintenant, il y a les politiques qui font leur travail, mais nous aussi, en tant que citoyens, nous avons notre rôle à jouer. Parce que quand nous pensons que tout doit venir de quelque part, nous allons entendre pendant longtemps, ça ne viendra pas. Il faut que nous-mêmes nous bougions. Il faut qu'on prépare nous-mêmes l'avenir des générations futures. Et je pense que c'est sur ce plan-là que moi j'attendais beaucoup plus les auditeurs. Vous savez, quand on dit politique, ça intéresse tout le monde.
Tout à fait.
Il y a combien de fois on n'a pas parlé d'économie, de culture et de tout ça, mais les gens ne s'intéressent pas à ça, alors que c'est là où se trouve en réalité notre salut. C'est ce que je pense. La politique, depuis 1990, on a commencé une lutte. Et jusqu'aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement ?
C'est la politique qui
trace les voies. Est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme ? Ne faut pas voir les choses autrement ? Parce que, vous savez, les politiques feront toujours leur politique. Quand vous suivez bien les politiciens, ensemble, ils se retrouvent quelque part. Hein, quel que soit ce qu'ils vont nous dire, quel que soit ce qu'ils vont faire en face de nous, mais derrière, ils se retrouvent toujours.
Et là, c'est un jeu.
Ah, mais c'est un jeu.
D'accord. Voilà. Sam Djobo.
Oui, moi je salue le langage de vérité de plusieurs auditeurs. Ils ont dit ce qu'ils peuvent dire. Mais en même temps, essayer de répondre à Didier qui m'a cité nommément pour lui dire qu'il n'est pas plus intellectuel que moi. C'est la première chose. Peut-être il me connaît, moi je ne le connais pas, mais il n'est pas plus intellectuel que moi. Tout ce que j'ai dit, je n'ai pas vu de contre-vérité dedans. En 2005, le mandat n'était pas limité. En 2019, le mandat a été limité. Aujourd'hui, la constitution a été modifiée. On passe d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. C'est une vérité. Mais ce que je veux lui rappeler ou rappeler à nos auditeurs, c'est que les acteurs politiques ne sont pas des enfants de cœur. Quand vous êtes en politique, il y a de ces erreurs qu'on ne commet pas. Déjà en 1994, souvenez-vous, l'opposition, le carré lutté avec la majorité de députés.
Tout à fait.
Et entre eux, ils ne se sont pas entendus et puis le parti au pouvoir avait profité pour davantage les diviser. En 2002, ils ont boycotté les élections législatives. C'est ça qui a permis la modification, qui a sauté le verrou pour permettre à Gnassingbé Eyadema de se présenter en 2003. En 2003.
Justement.
C'était la dernière présidentielle à laquelle il a participé. En 2018, l'opposition a encore commis l'erreur de boycotter les législatives. Il y a eu une première modification en 2019 et une seconde modification. Donc, en politique, il y a de ces erreurs qu'on ne commet pas. Moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ousmane Sonko et Bassirou Faye, ils étaient en prison. Mais le PASTEF n'a pas dit qu'il boycotte les élections. Mais c'est la première fois, c'est au Togo d'ailleurs, que les gens s'amusent à boycotter les élections. Et à chaque fois qu'il y a boycott des élections, il y a un coup que l'adversaire leur porte. Et je crois qu'il est temps que les gens tirent leçon de ce qui se passe pour se ressaisir à l'avenir.
D'accord. Sam Djobo, je reste avec vous pour la note de fin d'émission.
Oui, la note, ma note, c'est la note de 18 sur 20.
Non, c'est sur 10.
10 sur 10.
Oui, 7 sur 10.
Donc divise. Donc ça fait 9 sur 10.
Ça fait, voilà.
Ça fait 9 sur 10 que je donne à Ousmane Sanko et à Bassirou Diomaye Faye.
D'accord. Isidore, votre note de fin d'émission.
2 sur 10 pour nos députés qui nous ont prouvé qu'au Togo, le chien aboie, la caravane l'écrase.
D'accord. Eric,
moi,
votre note.
Je vais donner 8 aux femmes qui sont des productrices agricoles. Vous savez, il y a eu une réunion le 12 mars dernier et elles ont eu le courage de parler de l'agriculture irriguée en disant clairement ce dont elles ont besoin. Et je crois que j'avais pensé qu'on allait effleurer un peu le sujet. C'est dans le journal.
D'accord, c'est dans le journal. Merci à vous, chers confrères. Isida Color, merci. Eric Dawson, merci. Sam Diobo, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'animer cette émission avec vous. Et merci pour votre contribution à ce débat. Merci à Thomas Ited à TV qui a assuré la mise en onde alors de cette émission. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien et bon appétit chez vous.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Laisser se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger, les vies en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent.